à votre santé. 140e émission de l'Association citoyenne pour des centres de santé dans le Pays de Valois. Bonjour les auditrices auditeurs de RVM 93.7, Hélène Mazure au micro.
Et Christian Max.
Voilà, aujourd'hui nous voulons parler un petit peu des médecins, parce que nous avons eu quelques échos, mais auparavant j'ai écouté à la radio l'entretien radiophonique entre un journaliste qui a fait une enquête qui a fait beaucoup de bruit, l'enquête sur les EHPAD Orpea, avec son livre « Les Fossoyeurs ». Je parle de Victor Castaner. Tu en as entendu parler, Christian ?
Tout à fait.
Et donc, ce qui m'a semblé intéressant dans son entretien, évidemment, on lui pose des questions sur comment il s'y est pris pour mener une enquête pareille sur 3 ans. Évidemment, d'abord, il a eu des témoignages de professionnels, de famille. Il a pris son temps. C'est un journaliste indépendant, ne dépendant pas de la parution d'une publication. Et quand il a commencé à prendre conscience que ce n'était pas qu'un établissement ou deux, mais un système, là, il a voulu remonter jusqu'en haut, où il a découvert qu'en fait, les gestionnaires, c'était des comptables, des financiers, et qui ne connaissaient absolument rien à ces établissements de santé. Et que quand il réduisait la masse salariale, il ne savait absolument pas ce que ça allait donner sur le terrain. Donc déjà, et tu te doutes, je pense, Christian, ce qui animait les hauts gestionnaires de cette chaîne d'EHPAD.
Les cours de la bourse au quotidien et les dividendes distribués en fin d'année aux actionnaires.
Voilà. Eh bien, écoute, justement, ce Victor Castaner, journaliste, a dit finalement, j'ai compris que c'était d'abord quelque chose à but lucratif, que c'était faire de l'argent qui les intéressait, faire du profit. Et comme tu viens de le dire, qu'en plus, étant coté en bourse, eh bien, finalement, il fallait choisir entre les intérêts des résidents et les dividendes des actionnaires. Et manifestement, c'est ceux-là qui ont eu gain de cause. Donc, déjà, là, c'est assez brutal quand même d'entendre tout ça. Et il était interrogé sur ce qu'il pensait, des deux candidats en lice à l'élection présidentielle, de quoi ils parlaient par rapport à cette situation. Ils ont parlé de mieux contrôler. Il a dit, mais c'est totalement insuffisant, puisqu'il dit en fait, en gros, voilà comment je le dirais, le système est gangrené. Lui, il a dit, il faut repenser le système, c'est pas plus de contrôle. D'autant plus que je crois que tu as su que dans les subventions, il y avait des subventions publiques.
Tout à fait, oui, oui. Ces gens-là qui défendent toujours le privé en disant que le privé, c'est forcément mieux, sont toujours prêts à tendre la main pour toucher de l'argent public.
Voilà. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas eu de contrôle sur des subventions publiques,
et
c'est quand
cause,
même...
Et pour cause, puisqu'on supprime les postes de contrôleurs.
Et pas seulement, puisqu'il dit que ça dure depuis des années et des années, qu'il y a des milliers et des milliers de résidents qui ont souffert de ce régime de résidence, et que c'est vraiment là, c'est plus qu'une carence de l'État. Enfin, c'est grave comme carence, très grave. Alors, pourquoi j'ai démarré là-dessus ? Eh bien, parce que c'est l'idée de repenser le système qui m'a fait tilt, parce que par ailleurs, on sait très bien que nous qui manquons de médecins dans notre secteur, eh bien, il y a des médecins qui souffrent. Tu as été informé par ça, Christian.
Oui, oui, j'ai lu récemment le témoignage d'un jeune médecin en banlieue parisienne. C'est glaçant. Alors, notre système de santé est maltraitant avec les soignants. Déjà, ça commence bien.
Ah oui.
Oui, donc au cabinet médical, nous disposons de plages horaires sans rendez-vous et d'autres avec rendez-vous. Mais, les créneaux de rendez-vous se remplissent, les créneaux libres sont de plus en plus éloignés dans le temps et nos créneaux sans rendez-vous draine toujours une quantité plus importante de patients avec à la clé un stress accru pour le soignant, pour le patient qui attend des heures en salle d'attente, un risque d'erreur démultiplié de ma part, mais aussi un épuisement physique et moral certain. Donc voilà ce que donne la médecine telle que l'on l'a connue pendant des années et des années, avec des médecins qui faisaient jusqu'à 70 heures par semaine.
Eh bien voilà. Donc là, c'est terrible. Donc c'est d'ailleurs, je pense, une zone de désertification médicale s'il est surchargé comme ça. Et ça me rappelle quand même l'action qu'on est en train de mener pour éviter cette situation dans le territoire de l'ancien canton de Bay. Puisque si fin juin, donc, il y a encore un médecin qui part, eh bien...
Il en restera trois.
Voilà, et ils auront un peu plus de patientèle.
Trois pour plus de 12 000 habitants.
Où il y aura encore plus d'usagers sans médecin traitant. Je peux témoigner, nous avons démarré notre enquête et déjà, les réponses que j'ai, c'est d'abord pas de médecin traitant. Donc, voilà, ça nous conforte évidemment dans toute notre démarche, notre projet. Donc, les centres de santé, on répète, sont sans but lucratif. Ils permettent de recruter des médecins et de mailler un territoire. Et donc, justement, la question que je me pose... parce que j'ai eu un magazine du département de l'Oise qui est arrivé chez moi. Tu as lu, Christian ?
Que tout le monde a reçu, hein, tous les électeurs du département l'ont reçu.
Oui, les électeurs, les habitants.
Oui. Mmh.
Et donc, ils parlaient de leurs priorités budgétaires.
Et en particulier de la cinquième. Voilà. Qui est donc...
En dernier, ça ne peut être que la santé, voilà, évidemment. Oui. En tout cas, intitulé « Lutte contre la désertification médicale ». Qu'as-tu lu, Christian ?
Qu'il y avait plein de sous qui étaient donnés aux médecins libéraux et à eux seuls.
Et pour l'aide à leur installation en libéral, oui, uniquement. Et aussi, il y avait quelque chose de nouveau dont on vous avait informé, chers auditrices, auditeurs de RVM. Tu te souviens ? Par rapport aux étudiants ?
Oui, on leur paye leurs études.
Voilà.
À condition qu'ils veuillent bien s'installer en libéral.
Voilà, uniquement ceux qui s'installent en libéral. Donc c'est incroyable, ce credo pour la médecine libérale dont on vient de citer un des problèmes majeurs aujourd'hui, la surcharge des médecins en exercice. Eh bien, moi... Oui, tu as lu autre chose.
Oui, ça va complètement à l'encontre de ce que disent toutes les enquêtes récentes.
Effectivement.
Auprès des médecins et des étudiants en médecine, donc dont tu vas nous donner la substantifique moelle.
Oui, oui, oui. Alors, récente, elle date quand même de 2019, cette étude, et le titre, c'est « Installation des jeunes médecins, facteur déterminant ». Autrement dit, qu'est-ce qui les motive à aller à tel endroit ? Et cette enquête, alors, vous inquiétez pas, c'est pas notre Fédération des centres de santé qui l'a menée. Non, 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 non. C'est la commission jeunes médecins de ceux qui ont fait leur thèse, qui ont été internes, les médecins installés. Donc, c'est une commission jeunes médecins. Et c'est le Conseil national de l'Ordre des médecins. Donc, voilà. C'est pas du tout. Donc, le Conseil national de l'Ordre des médecins, on répète, c'est pour la médecine libérale. Voilà. Eh bien, dans les facteurs décisifs qui motiveraient les jeunes médecins, alors, disait-il au départ, à choisir un lieu d'installation, ils ont donc interrogé 15 000 ont répondu. 15 000 médecins, donc c'est... Voilà, hein,
c'est déjà pas mal, oui.
Voilà, un bon panel. Où il y avait donc, puisque c'était les jeunes, hein, donc c'est, alors, ils ont interrogé l'ensemble des médecins. Il y avait dedans donc des internes et des médecins installés, hein, des jeunes qui arrivaient et des médecins installés. Des remplaçants aussi, puisque apparemment, ils aiment bien commencer, voilà, leur carrière par des remplacements. Voilà, ils ne veulent pas s'installer tout de suite, les jeunes médecins. Et donc, dans cette étude, alors sur les 15 000 réponses, il faut savoir qu'il n'y avait que 60% de généralistes, le reste c'était des spécialistes. Et comme c'était en 2019, ils ont relevé qu'il y avait une majorité d'hommes, 60% pour 40% de femmes, mais que l'évolution...
C'est pas la proportion des étudiants en médecine sortant de,
voilà,
de la fac. Hein.
Puisque
il y a plus de femmes que d'hommes.
Ce qu'ils prévoient, c'est qu'en 2025, c'est dans pas très longtemps, eh bien la proportion sera inversée, c'est-à-dire qu'il y aura 60% de femmes, voilà. Donc, qui seront sur le marché du travail des médecins. Voilà, donc c'est un élément à prendre en compte. Et donc, dans les médecins qu'ils ont interrogés, 19% avaient plus de 55 ans. Donc, vous voyez qu'il y avait toutes les générations. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette enquête ? En premier point, on nous dit que ce serait une activité, le choix irait vers une activité libérale ou mixte, c'est-à-dire les deux, hein, dans 75% des cas. Mais, précision, on constate, je vous cite l'étude, toutefois, que 12% des nouveaux inscrits au Conseil national de l'Ordre des médecins se sont installés en libéral en 2020. 12% seulement, ça te rappelle quelque chose, Christian ?
Ben, ça me rappelle une étude faite par l'Ordre des médecins qui est un peu antérieure à ce que tu cites,
oui,
et qui disait que sur une cohorte de jeunes médecins arrivant sur le marché du travail, seulement 10% envisageaient de s'installer en libéral. Donc et sur une cohorte déjà insuffisante pour remplacer les départs en retraite, il n'y en a que 10% qui veulent s'installer en libéral.
Donc, vous voyez, là, c'est l'Ordre des médecins qui dit 12% se sont inscrits, oui, pour s'installer en libéral.
On est c'est à peu près dans les mêmes proportions.
Voilà. Donc voilà, hein, entre ce qu'ils pensent à un moment donné et ce qui se réalise après, ça ne fait pas beaucoup.
Et on voit bien que le département de l'Oise est complètement à côté de la plaque. Son offre ne correspond pas à la demande.
Absolument. Alors, qu'est-ce qui les motive ? C'est médecin. Eh bien, en premier, ils mettent l'accompagnement humain. Qu'est-ce qu'on entend par accompagnement humain ? C'est-à-dire, en fait, surtout les internes, ils disent, la proximité d'un confrère ou d'une consoeur ou d'une collectivité territoriale est un facteur déterminant à l'installation pour près de 63%. Ils ne veulent pas être seuls. Hein ? Les professionnels de santé veulent s'installer dans une localisation où il y a des établissements de santé dans le secteur, évidemment, en particulier hospitalier. Pour les, donc, en particulier les jeunes, 87% de ces jeunes, donc les jeunes médecins, les remplaçants, 87% disent qu'ils ont besoin d'avoir sur le territoire d'autres professionnels de santé ou un hôpital à proximité. Donc, ce critère, évidemment, semble plus important pour les jeunes installés que pour les plus anciens. Mais il faut bien attirer les jeunes. Donc, voilà un critère qui compte. Alors, il y avait un beau petit tableau récapitulatif. Donc, on mettait l'accompagnement humain en premier. Hein. Plus ils sont jeunes, plus ils veulent l'accompagnement humain. Ceci dit, même les médecins installés, soit à 60%, mettre l'accompagnement humain en premier point. Donc, humain, médical, hein, tout le monde comprend. Le deuxième point, c'est l'accompagnement territorial, ce que j'ai dit, la proximité du service public, mais aussi le rapprochement familial, si vous voulez, la possibilité d'exercer et d'avoir sa famille à proximité, que le conjoint ou la conjointe puisse avoir aussi un emploi. Ça compte.
Que les enfants aient une école, un lycée, voire une université pas trop loin.
Ils mettent tout ça après. Pour eux, c'est d'abord ça. Alors, en ce qui concerne l'accompagnement financier, eh bien, c'est dit strictement qu'il est non déterminant à l'installation en région. En particulier pour choisir le lieu géographique. Hein. Ils sont, donc ils disent, partiellement intéressés. Vous voyez, toutes les mesures qui visent à les emmener dans des déserts médicaux. Eh bien, donc on nous dit, voilà le chiffre, moins de 40%, donc des jeunes médecins entre 30 et 35 ans, sont intéressés par les aides financières et rapportent que ce n'est pas un moteur à leur installation dans une zone de désert médical. Donc là, c'est zéro pointé pour notre département.
Et notre CCPV.
Exact. Donc, qu'est-ce qui les motive, en plus donc de ce qu'on a dit ? Eh bien, la question de la charge de travail, oui, c'est important pour eux. C'est une préoccupation, c'est très fort pour les internes. Alors les internes, n'oublions pas qu'ils travaillent en milieu hospitalier. Ils savent ce que c'est que la charge de travail en milieu hospitalier.
Oh, oui, ils sont bien essorés par les médecins praticiens.
À 82%, c'est une préoccupation primordiale. Les remplacements également. Et après, la question de comment on exerce. Non seulement ils préfèrent avoir une consoeur ou un confrère, mais ce qui les intéresse, c'est en fait le travail collectif, l'exercice collectif ou coordonné. C'est à 70% leur aspiration. Où trouve-t-on cet exercice collectif ou coordonné ?
Dans les centres de santé.
Voilà. Parce que là, c'est la structure même qui conçoit. Dans les maisons de santé, on dit aussi qu'ils se retrouvent, etc. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce qu'ils ont des réunions, un travail collectif, un support informatique, un réseau informatique ? Ils disent vouloir travailler en réseau, etc. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ce sont des conditions pour l'ouverture d'un centre de santé.
En maison de santé, ça marche comme ça si les médecins le veulent bien. En centre de santé, ça doit marcher comme ça. C'est une obligation.
Exactement. Voilà. Alors écoutez, vous voyez, chères auditrices, auditeurs, nous ne vous racontons pas n'importe quoi. Nous sommes confortés par l'ordre des médecins qui régit le régime des médecins libéraux. Et c'est eux qui disent ça. Et d'ailleurs, nous ajoutons comme d'habitude, parce que dans notre campagne d'information et d'enquête dans le canton de B, nous nous adressons aussi aux médecins libéraux.
Et oui, on leur a dit tout ça.
Et voilà, on va leur dire
oui,
tout ça.
Oui, et de toute façon, ils le savent déjà, je pense.
Et ce qu'on leur dit, c'est que nous, on pense que le centre de santé sera complémentaire de leur exercice.
Oui, ça va les soulager, ça ne va pas leur faire concurrence.
Voilà, puisque tout le monde le sait, il y a des patients sans médecin et des médecins surchargés de patients.
Oui, d'ailleurs, les premiers résultats de l'enquête qui nous sont déjà parvenus vont tout à fait dans ce sens-là.
Voilà. Donc vous voyez, chers auditrices, auditeurs de RVM 93.7, qui écoutez notre émission À votre santé régulièrement, nous sommes plus déterminés que jamais à poursuivre notre action pour le maillage du territoire en médecins et donc par le truchement d'un centre de santé supplémentaire.
Ben oui, puisque c'est ça qui marche mieux que les maisons de santé, les beaux bâtiments avec des robinets plaqués or. Apparemment, ça n'attire pas grand monde.
J'ajoute, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, que dans l'enquête sur Orpea, l'écrivain a dit « En fait, Orpea, c'est une activité immobilière qu'il fait ». Ça nous rappelle tout à fait, ce n'est pas un projet de santé, c'est un projet immobilier.
Voilà.
Donc, chères auditrices, auditeurs, vous savez que vous pouvez nous écouter le samedi 10h30, le mardi 13h, jeudi 16h et bien entendu ensuite en podcast. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous disons à très bientôt.
Au revoir.